en direct les rendez-vous de midi aujourd'hui, mercredi. Emmanuel, dans nos studios, vous recevez le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, Fabien Gabory, et à ses côtés, Cyril Groslier.
Responsable d'assainissement. C'est dans une semaine précisément la journée mondiale de l'eau, un événement qui est évidemment important, le sujet l'est, avec de multiples angles possibles. On parle beaucoup de nos nappes phréatiques en ce moment, en plein hiver, mais ce n'est pas non plus nouveau. Sur l'île de Noirmoutier, des actions pionnières ont été mises en place il y a plusieurs décennies, et ce n'est pas fini non plus. Pour parler d'eau aujourd'hui, en vue des visites programmées mercredi prochain à la station d'épuration de la Salésière, eh bien on reçoit effectivement Fabien Gabory et Cyril Groslier. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Emmanuel. Merci de nous recevoir et merci de recevoir Noirmoutier.
Et merci de venir ici dans notre studio. L'assainissement, c'est une compétence des communautés de communes. C'est un vrai enjeu pour les collectivités évidemment. Est-ce que c'est un enjeu qui est encore plus important lorsqu'on travaille, lorsqu'on vit sur une île?
Alors bien sûr, parce que ce qu'on a évoqué, c'est que le stress hydrique, il est encore plus présent sur un territoire insulaire comme le nôtre, parce que vous le savez, on n'a pas d'eau superficielle, donc nous n'avons pas de cours d'eau, mais historiquement nous avions quelques puits d'eau douce, mais c'était un petit peu tout ce qu'il y avait, donc c'était une ressource qui a toujours été vue comme la vie et quelque chose de très important, et que nous devions donc prendre en compte toutes ces problématiques. Et l'assainissement qui est arrivé sur l'île au début des années 80 s'est imposé aussi, parce que bon, la pression touristique et la pression foncière que subissent les îles a fait qu'il y avait une dégradation potentielle de la qualité de l'eau, et que bien sûr notre île de Noirmoutier, elle est aussi tournée vers la mer et sur toutes ses productions marines, que ça soit la pêche, la conchyliculture et la saliculture, et donc il fallait absolument que nous puissions traiter rapidement ces eaux-là, et c'est ce qui a été fait des années 70 grâce au sénateur Jacoudin, qui était assez visionnaire sur ces problématiques-là et qui a mis un système d'épuration en place, de station d'épuration. Et comme notre territoire que vous connaissez bien est aussi lié à ces marais, c'est tout de suite posé la question technique de comment mettre en place l'assainissement de façon insulaire et de façon à ce qu'elle calque à notre territoire. Et donc a tout de suite été envisagé ce lagunage, qui est une technique particulière qui par la luminosité et les UV vient améliorer la qualité de cette eau-là. Et donc ce lagunage et ce stockage a permis aussi de voir le potentiel, la manne possible de ces eaux, qu'on appelle donc des eaux de réutilisation, et qui donc ont eu un débouché agricole tout de suite, parce que les agriculteurs ont vu ça comme une manne vraiment providentielle, et ils étaient entre guillemets obligés de faire avec les conditions climatiques. Et une année il y avait de la pluviométrie, une année moins, et donc les récoltes s'en ressentaient. Et là on a optimisé les récoltes grâce à cette eau, on l'a utilisée tout de suite, on a mis un système d'irrigation en place, et ce qui permet d'avoir un maintien de la production à un stade de 12 000 tonnes tous les ans.
On va expliquer précisément comment ça se passe. L'île a été pionnière au début des années 80 sur le sujet. On rappelle à la compétence assainissement, vous fait intervenir dans toutes les étapes, de la collecte au traitement des eaux usées. Voilà, quelles sont les étapes que vous devez gérer, pas seul d'ailleurs.
Alors, on a à peu près 15 000 branchements d'eau usée répartis sur l'ensemble de l'île. On a à peu près 170 km de réseau gravitaire, 70 km de réseau de refoulement, 122 postes de relevage. Ça s'explique du fait que l'île est relativement plate. Et on a une station d'épuration à Barbate qui ne traite que les eaux usées de Barbate, la station d'épuration de la Casie, qui a une capacité de 18 000 équivalents habitants. Et une autre station d'épuration à Noirmoutier, qui s'appelle la Salésière, qui elle reçoit les effluents de l'Épine, la Guérinière et Noirmoutier, et elle a une capacité de traitement d'environ 49 500 équivalents habitants.
Et la semaine prochaine, mercredi, vous allez la faire visiter au grand public, aux habitants de l'île, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. C'était important pour vous, presque évident, de participer à cette opération, à cette Journée mondiale?
Alors bien évidemment, parce que tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment l'ADN de Noirmoutier, d'avoir la préservation et d'être assez innovant sur la thématique de l'eau, parce que notre territoire est particulier et que le stress hydrique est aussi une des actualités du moment. On le voit bien au cœur de cet hiver où ça revient. Et donc, il fallait aussi qu'on puisse mettre en avant justement ce process qu'a mis en place notre communauté de communes, cette innovation sur les eaux de réutilisation. Donc c'est le moment de faire connaître à nos habitants quelles sont les compétences de la communauté de communes et quel est notre niveau de technicité et notre niveau d'innovation. Et donc c'est aussi faire rayonner le territoire et puis dire à nos habitants que voilà, la communauté de communes s'engage pour eux et puis s'engage pour l'ensemble des habitants et la préservation de cette ressource importante.
Ce sera mercredi 22 mars, sur inscription évidemment. La Comcom sera présente avec des agents, mais pas seul, parce que vous ne travaillez pas tout seul depuis et sur la station.
Complètement. En fait, on a un exploitant qui est la société SOR, qui a un contrat d'affermage jusqu'à juillet de l'année dernière. Et là, on est reparti à nouveau avec la SOR sur un contrat de concession qui nous emmène à nouveau sur 12 ans depuis juillet de l'année dernière.
Donc là, ce seront les coulisses, évidemment, de l'épuration. Alors justement, les habitants vont peut-être découvrir, voire redécouvrir comment, depuis 40 ans, vous l'avez évoqué, les eaux usées sont réutilisées sur l'île avec une ingénieuse mise en place, une ingénieuse idée qui a été mise en place quelques années après l'été 76, qui a été évidemment très important. La sécheresse est encore dans beaucoup de mémoires, mais c'est ce qui a marqué un tournant pour les habitants et pour les élus de l'île, dont Jacques Houdin.
Absolument, donc la sécheresse de 76 a été le tournant, parce que comme je l'ai dit, donc l'agriculture était entre guillemets calquée sur les conditions climatiques, et 76 ça a été un drame absolu, parce que la sécheresse a commencé très tôt, un peu dans la configuration qu'on a cette année, et donc les cultures de pommes de terre et les rendements ont chuté vraiment sensiblement. Et donc, dans le même temps, on commençait à travailler sur l'élaboration de l'assainissement collectif sur l'île de Noirmoutier. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été vu comme une manne, cette eau providentielle, en fait, qui arrivait, et qu'il fallait donc retraiter pour qu'elle puisse être mise à disposition des agriculteurs. Et donc, ces années-là, le système tel qu'on le connaît aujourd'hui de lagunage et de stockage de ces eaux a été créé. Et dans le même temps, le réseau d'irrigation et l'association d'irrigation et de drainage a été créé. Et les agriculteurs ont investi de leur côté dans l'irrigation de leurs parcelles, dans tout le réseau, et nous avons investi dans la qualité de l'eau que nous leur fournissons à titre gratuit depuis ces années-là.
Avec tout un parcours remarquable des eaux usées jusqu'aux terres agricoles, avant d'arriver sur les terres, il y a un petit passage sous le soleil, donc on est vraiment dans un traitement naturel.
Oui, alors comme je disais, les marais de Noirmoutier proposent ça, c'est qu'on a des grandes étendues, donc la plus grande lagune de stockage, c'est une vingtaine d'hectares, et donc les UV viennent abattre la bactériologie naturellement, et donc le système se fait tout à fait naturellement grâce à nos marais. Et je voudrais ajouter que ce système-là, oui, on est pionnier en France. Il y a une autre agglomération qui est Clermont-Ferrand qui le pratique un peu, mais à moindre échelle. On est les gens qui produisent le plus d'eau au niveau national, la quantité d'eau de réutilisation, et que autrement, ça s'est développé beaucoup dans le monde, donc notamment dans où le stress hydrique est prégnant. Israël est un leader des eaux de réutilisation, et puis la Namibie, je crois, en deuxième, et puis après tous les pays du Golfe. Donc vous voyez, c'est quand même une grande innovation, et quand on parle de transition, on est déjà un petit peu pionnier, on a un peu d'avance sur les autres, et cette avance, on ne voudrait pas la perdre, et donc on va optimiser après ce système, bien sûr, années qui viennent.
Mais ce n'est pas terminé, plein d'évolutions possibles. Alors, tout cela est évidemment très réglementé. Chaque semaine, vous analysez l'eau, l'eau est analysée.
En fait, effectivement, on a une réglementation française qui ensuite est décrite dans les arrêtés préfectoraux de façon locale, et on se doit toutes les semaines d'analyser aussi bien des paramètres physico-chimiques que bactériologiques, et dès lors qu'il y a un dépassement sur un des paramètres, donc on fait appel au laboratoire départemental de la Vendée pour venir faire les prélèvements et les analyses, dès qu'il y a un paramètre qui ne respecte pas les valeurs, on stoppe instantanément l'irrigation et on demande au laboratoire de revenir faire une contre-analyse, et on attend que le nouveau résultat soit correct pour relancer l'irrigation.
Un sujet d'actualité, les micropolluants, vous avez demandé un diagnostic sur les eaux usées.
Alors on est effectivement en avance aussi sur la réglementation par rapport à ce sujet-là. Tous les 4 ans, les stations d'épuration d'une certaine capacité, comme la Salésière à Noirmoutier, se doivent de faire des analyses sur les micropolluants. Et au-delà de cette réglementation, la collectivité a décidé de rechercher la partie amont, les rejets amont à la station d'épuration, en fait ceux qui peuvent générer ces micropolluants, pour essayer de faire de la sensibilisation et voir à réduire complètement certains paramètres.
On est où là, à la phase de diagnostic, ou vous avez déjà les résultats ?
Alors, on a déjà quelques analyses, donc on a relancé un schéma directeur de l'assainissement qui va aussi nous accompagner dans toutes ces thématiques. Et bien évidemment, donc on va essayer, bien sûr, qu'il y ait moins de micropolluants qui arrivent en station, donc par la sensibilisation des entreprises qui peuvent générer ces micropolluants. Et aussi, on a décidé aussi d'aller, plus loin, c'est-à-dire d'aller traiter les micropolluants qui resteront toujours résiduellement présents, parce que c'est des eaux d'utilisation, et donc dans certaines lessives, ainsi de suite, on peut avoir des micropolluants. Donc on a décidé d'être proactif aussi là-dessus, d'améliorer cette qualité de l'eau, pour la rendre à qualité initiale robinet. Donc on va avoir le schéma directeur des eaux usées et de l'assainissement qui va nous emmener sur des techniques possibles pour aller chercher les micropolluants que nous connaissons déjà, qui seront vraisemblablement des eaux traitées par du charbon actif. Donc voilà, dans les projets, dans les prochains projets, il y a celui-là.
Si je peux me permettre, oui, l'avantage que l'on a sur l'île, c'est qu'on a très peu, voire pas du tout, de rejet industriel, ce qui nous permet d'avoir une qualité d'eau à traiter quasiment constante, et ces micropolluants sont principalement du rejet urbain.
On va en reparler évidemment, on va aussi reparler effectivement des projets autour de l'eau, le diagnostic que vous lancez aussi sur les deux années à venir. Ce fonctionnement vertueux en tout cas du traitement des eaux usées non seulement se poursuit, mais l'île évidemment réfléchit à améliorer encore les choses. Qu'en est-il aussi de l'eau potable, hein? Réponse dans 3 minutes.
Juste après Adé pour la musique sur 9 et Insomnie.
Mais je dormais pas.
Insomnie sur Nova, 12h50 la suite, et jusqu'à 13h les rendez-vous de midi aujourd'hui. Vos invités à l'occasion, c'est dans quelques jours, dans une semaine, à savoir la journée mondiale de l'eau. Vous recevez donc Fabien Gabory et puis également Cyril Grolier-Emmanuel.
Oui, la journée mondiale de l'eau, donc mercredi 22 mars, on a avec nous le président de la communauté de communes et puis Cyril Grolier qui est responsable assainissement à la collectivité. On parle notamment du traitement de l'eau sur l'île. On imagine bien que les années un peu plus chaudes, un peu plus sèches, la solution qui a été mise en place au début des années 80 est évidemment salvatrice. Vous l'avez vécu l'an passé, j'imagine, déjà.
Alors oui, parce que l'année dernière, avec les restrictions d'eau potable, heureusement que oui, on avait cette manne pour les agriculteurs qui puissent porter leur récolte jusqu'au bout et donc qui puissent faire profiter et avoir les mêmes rendements qu'une année normale. Donc oui, ça a été une manne pour l'agriculture et elle le reste. Et donc nous allons même accentuer, parce que le stress hydrique devient de plus en plus prégnant, et je pense que les années que nous vivons risquent de devenir la norme dans les années qui viennent. Et donc nous allons nous engager à la communauté de communes à faire du stockage supplémentaire, donc c'est-à-dire agrandir nos lagunes de stockage, notamment sur Barbâtre où il y a un fort potentiel d'agrandissement, et puis on a une petite réserve foncière aussi sur la station de Noirmoutier à la Salésière où on pourra envisager un stockage supplémentaire. Et puis on a aussi des pistes que nous envisageons pour pouvoir stocker cette eau-là, qui sont les carrières, d'anciennes carrières, qui peuvent servir de stockage. C'est ce que fait Vendéo pour de l'eau potable, déjà avec la carrière des Clouseaux notamment. Et donc à Noirmoutier, on regarde aussi, on va explorer ces pistes incessamment sous peu.
On n'a pas encore parlé, vous l'avez évoqué quand même, hein, le volume, mais quels sont les volumes d'eau récupérés chaque année?
Alors on traite 1 500 000 mètres cubes d'eau et on en réutilise pour l'instant environ 600 à 700 000 pour l'agriculture.
Et le reste?
Et le reste repart dans le milieu naturel.
Mais pourrait effectivement être utilisé si vous réussissez à stocker davantage d'eau, si je comprends bien.
L'idée, c'est de pouvoir avoir cette eau aussi pour accentuer pour les agricultures les couverts végétaux. C'est-à-dire qu'après la récolte, pouvoir mettre des engrais verts et qu'on viendrait arroser, parce qu'il y a besoin d'eau pour que ça lève. Donc on est en négociation avec eux là-dessus et ils voient ça d'un très bon œil. Donc toujours en mettant cette eau à disposition gratuitement. Et puis il y a d'autres enjeux qui sont aussi des enjeux pour l'artisanat et puis les économies. Les autres économies, on pourrait très bien imaginer que cette eau de réutilisation puisse servir notamment aux stations de lavage de véhicules qui ont été fortement impactées parce qu'il y a des restrictions et elles ne peuvent pas travailler quand il y a des restrictions préfectorales. On a tout l'arrosage de l'espace public qui est envisagé. On le fait déjà avec le stade de foot de Noirmoutier, mais on voudrait l'agrandir. On a tous les services d'hydrocurage parce que aussi l'entretien des réseaux justement d'assainissement ou de pluviaux se font avec de l'eau potable jusqu'à maintenant et on trouve ça un peu hérétique alors qu'on a cette sur le Noirmoutier. Donc on va mettre tout ça en place. On travaille avec Vendéo, notamment sur des bornes de puisage qui pourraient être installées sur le réseau de réutilisation et qui pourraient servir à toutes ces thématiques. Il y a aussi pour les artisans la production de béton. On a un maçon qui va avoir une station de béton décarboné, il lui faudra de l'eau et donc pour que ça soit vertueux jusqu'au bout et qu'on soit dans la transition écologique, on va fournir cette eau pour la station de béton décarboné.
Plein de projets. Et alors justement, cette année 2023 et l'an prochain sont des années importantes puisque nouvelle étude diagnostique est lancé sur le territoire pour un nouveau schéma directeur, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Alors, le schéma directeur va nous emmener techniquement à justement de nouveaux process, améliorer et optimiser forcément le traitement, hein, c'est la volonté d'un schéma directeur d'assainissement. L'agrandissement des stations est prévu, mais aussi, comme on a dit tout à l'heure, donc ramener cette eau potentiellement à une qualité initiale robinet, hein, donc aller traiter vraiment les RSDE, donc les micropolons et tout ce qu'on s'est dit. Et puis aussi, on envisage, parce qu'on a ce lagunage qui est une surface importante, hein, 20 hectares à Noirmoutier, on a un potentiel pratiquement équivalent sur Barbâtre de potentiellement d'agrandissement. Et donc on fait étudier dans ce schéma aussi la possibilité d'installer de l'énergie renouvelable, une production d'énergie renouvelable sur ces lagunes par du photovoltaïque flottant. Donc ce serait une grande innovation pour le territoire. Quelques territoires du sud commencent à s'y mettre, dans l'est aussi, mais pas sur des stations d'épuration, sur des lagunages. Nous on a cet espace disponible, donc on souhaite l'installer. Donc on est en train d'étudier ça techniquement. Et puis une fois qu'on a cette énergie, comme on a la ressource eau, je pense que par électrolyse, on va essayer aussi de produire de l'hydrogène. Donc le cercle vertueux, un véritable écosystème qui se met en place et dont je vous ferai part des avancées.
Évidemment.
Parce que c'est important pour
on
notre territoire.
On va suivre hydrogène vert, si j'entends bien.
Donc là, ça serait de l'hydrogène vert parce qu'on produit de l'électricité à partir du soleil sur de l'eau de réutilisation et on produit de l'hydrogène, c'est de l'hydrogène vert.
Alors quid de l'eau potable, hein, comme tout le Nord-Ouest Vendée, vous êtes alimenté une grande partie hein, depuis le barrage d'Apremont, mais vous réfléchissez à d'autres solutions?
Alors, sur l'eau potable en Vendée, vous le savez, c'est Vendéo, qui est le syndicat vendéen et qui est un des plus gros syndicats français, je pense pouvoir dire le plus gros syndicat d'eau français. Entre guillemets, une machine de guerre, vraiment, avec plein d'innovations. Et sur les eaux de réutilisation, on en parle de Noirmoutier, mais il y a un gros projet qui s'appelle le projet Jourdain, mené par Vendéo sur l'agglomération des Sables-d'Olonne, où là, on va aller chercher les eaux de réutilisation de la même façon, les traiter, les réintroduire dans le milieu, dans le gelé, et ils vont revenir naturellement dans le robinet.
Dans le robinet.
Donc là, c'est vraiment au sable, hein. Absolument la boucle est bouclée, si je puis dire, et que c'est vraiment là une innovation importante. Ce sera une première européenne, et c'est Vendéo qui l'apporte. Donc on peut être fier d'être Vendéen sur ces thématiques. Alors Vendéo, oui, c'est le syndicat qui nous approvisionne. L'eau vient du continent. Elle passe sous le pont, hein, par un gros aqueduc, et donc elle vient principalement d'Apremont, mais heureusement, Vendéo avait été un peu précurseur et a interconnecté ses réseaux. Et heureusement, parce que l'année dernière, avec le stress hydrique et la sécheresse, on ne pouvait plus avoir d'eau à Apremont, on ne pouvait plus s'approvisionner. Donc l'eau d'approvisionnement des mois les plus importants pour nous, juillet-août, parce que le territoire passe de 10 000 à 100 000 habitants, et la consommation d'eau aussi, venait du sud Vendée, du barrage de Mervent.
Mais on peut imaginer qu'à terme, le traitement des eaux usées permettrait aussi d'arriver dans vos robinets.
Ben après, une fois que Jourdain est une expérimentation et si ça se met en place, bien évidemment, on pourra l'évoquer sur d'autres eaux superficielles, telles que le barrage d'Apremont, le barrage de Mervan. On pourrait, de la même façon, réintroduire ces eaux dans le milieu et elles reviennent dans le robinet.
Alors, je crois savoir que depuis l'été dernier, voire avant peut-être en tout cas, pas mal de médias vous ont approché sur le thème justement du traitement de l'eau sur l'île pour en savoir plus. Voilà, c'était un petit peu à la mode, l'île de Noirmoutier, sur le sujet.
Ah oui, parce qu'il y a une volonté politique sur la transition qui est forte sur ces thématiques. Donc on a été approché premièrement évidemment par les politiques qui regardent ça d'un bon œil et techniquement parlant, qui nous consultent régulièrement. On a eu une visio la semaine dernière avec le député Pierre Cazeneuve, qui est chargé à l'Assemblée nationale d'établir ces textes de loi sur la transition et notamment sur la thématique de l'eau. Donc j'espère qu'on l'a eu en visio et il va venir sur le territoire incessamment sous peu. Et puis les médias, oui, parce que comme c'est un projet vertueux et que c'est dans les thématiques de l'accélération, je peux dire aujourd'hui que Cyril Grelier est devenu une véritable star des médias, sollicité en permanence. Moi aussi, on a fait pas mal d'interviews radio, Sud Radio, Radio François Océan, vous-même. On a dû faire aussi BFM, France Info, et puis on fait aussi de la télévision, parce qu'on a BFM qui vient demain sur le territoire, et il y a l'émission de Jamy sur les sciences qui vient faire un reportage sur les eaux de réutilisation la semaine prochaine.
Voilà, l'île de Noirmoutier, donc sur tous nos écrans nationaux, etc. On rappelle donc le rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas pour la Journée mondiale de l'eau, c'est mercredi, ça se passe dans la station d'épuration de Noirmoutier, c'est gratuit, évidemment, mais on conseille forcément de s'inscrire parce qu'il y aura des petites jauges.
En fait, on peut accueillir une quinzaine de personnes, donc il y a une session de prévue le matin, et s'il y a plus de 15 personnes le matin, on basculera aussi pour une session l'après-midi.
Donc c'est à la communauté de communes qu'on s'inscrit auprès de votre service.
Il faut appeler le service assainissement pour prendre rendez-vous, et une fois que vous l'avez fait, c'est bon.
Mercredi 22 mars, c'est comme ça vous en saurez beaucoup plus. Hein. Je remercie infiniment Fabien Gabory et Cyril Grelier. Donc, beau retour sur votre très belle île. Vous avez de la chance.
Eh bien, merci,
Emmanuel.
Merci. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Et donc, on reparlera évidemment dans le bloc 9 de ce rendez-vous mercredi 22 mars.
Exactement, dans une semaine, tout pile. Merci, Emmanuel. Demain, nous sommes jeudi, l'économie.
L'économie. Et on reçoit demain l'ADMR avec la responsable du secteur chalangois, Pamela Charles. Donc, l'ADMR qui recrute toujours. Et puis, évidemment, qui intervient dans beaucoup, beaucoup de foyers.
Demain, ne pas manquer sur 9 à 12h35. L'émission podcast arrive très vite. 9fm.fr, l'appli à tout à l'heure pour la bonne nouvelle. Le retour de la musique après les infos. Alok, Stromae et Robbie Williams. Il est 13h.